Bonjour à tous sur ce temps du midi d'une heure que je vais essayer de garder d'une heure. Donc voilà, un challenge puisque l'idée dans cette programmation du Festival de Danse Fabrique qui est tournée pour une grande partie vers des chorégraphes belges cette année, c'était de proposer un temps à la fois historique et thématique, peut-être pour resituer la danse contemporaine belge, je dirais, dans son histoire. Et puis, dans ses spécificités. C'est pour cela que je l'ai intitulé La danse contemporaine belge, des identités à la croisée des arts. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit qu'il y a une quarantaine d'années à balayer, je dirais, en une heure de temps. Donc il a fallu évidemment faire des choix. Alors peut-être que certains d'entre vous se diront, ah, elle n'a pas choisi de parler de tel chorégraphe ou de tel autre. Voilà, j'ai fait des choix diverses et variées pour des raisons qui essayaient de montrer la pluralité, en tout cas, de ces identités et la pluralité de cette croisée des arts au sein de cette danse contemporaine belge qui naît dans les années 80. Et c'est une danse contemporaine belge qu'on va nommer plurielle. Plurielle parce que elle est issue de. Enfin, ses fondements sont issus de croisements. Alors, des croisements entre les filiations modernes et néoclassiques, notamment dans la formation des chorégraphes, mais aussi et surtout des croisements entre les disciplines, la danse, le théâtre, les arts visuels, la musique, donc danse et théâtre, danse et arts visuels, danse et musique, danse et nouveaux médias ou nouvelles technologies, comme on le dit aujourd'hui. Et ce qui les rassemble peut-être tous, en tout cas j'espère que vous le sentirez ou percevrez durant cette conférence, c'est véritablement pour chacun de trouver une forme de physicalité investie dans le travail dansé. Le mouvement reste toujours le centre, je dirais, de l'art chorégraphique belge. Alors, d'un mouvement qui peut être ciselé, précis, graphique, à une énergie qui peut être plutôt brute ou explosive, vous le verrez, c'est très différent d'un chorégraphe à un autre. En tous les cas, je crois que cette danse contemporaine belge nous propose toujours des corps qui sont sans compromis dans comment est-ce qu'ils sont activés. Donc, la danse contemporaine belge est à la croisée des physicalités, à la croisée des disciplines, à la croisée aussi géographique et culturelle. Puisque le paysage historique et culturel belge est à l'image peut-être de sa pluralité, ou bien est-ce le contraire? Je vous invite à cette occasion peut-être à regarder le théma sur Numéridance que Philippe Guisgan a consacré à ce sujet et qu'il a d'ailleurs intitulé La chorégraphie belge contemporaine, une danse entre les arts, entre les cultures. Et donc c'est ainsi qu'on va peut-être commencer cette conférence avec cette première génération de danseurs chorégraphes belges qui apparaît dans les années 80, comme la danse d'auteur en France, hein, qui s'affirme au même moment. Et cette première génération de chorégraphes va tenter, je dirais, d'affirmer une signature. Chacun essaie d'affirmer sa signature. Pour cela, se défaire, on va dire, des grands maîtres, alors soit leurs aînés, professeurs, ou les aînés historiques de la danse moderne, pour inventer leur propre style. Ouverture, évidemment, du vocabulaire et de l'écriture chorégraphique, on va voir des exemples. Émergence de nouveaux discours aussi, fondés sur de nouvelles relations au monde, peut-être, telles que elles sont perçues dans les années 80. Et puis une pensée de la danse contemporaine qui est vécue comme, évidemment, la maîtrise d'un corps en mouvement, avec une inventivité dans le langage, et puis avec une grande force interprétative du danseur. Le danseur-interprète prend une place importante. Finalement, on pourrait dire que ce sont des formes de virtuosité et d'originalité qui sont renouvelées. On les rassemble parce qu'ils émergent au même moment dans le paysage belge. Ils sont emplis de ces désirs similaires, mais il n'en reste pas moins que les chemins pris par chacun vont exposer finalement un paysage esthétique éclectique dans les propositions chorégraphiques. Tout simplement d'abord parce que, on va pas faire de cours de géographie, mais tout de même se rappeler que la Belgique est un pays avec un contexte et une réalité culturelle particulière. Un pays partagé entre différentes cultures, notamment la culture flamande et la culture francophone. Et puis, c'est un pays qui est effectivement à la croisée de cultures. À ce sujet, Anne-Thérèse Adkersmaeker a dit, je la cite, « La Belgique est le croisement entre Londres, l'Allemagne, la Hollande et Paris, un mélange de cultures romanes et germaniques. Tout ça donne un espèce de no man's land. En Belgique, tout est entre. » Et effectivement, on est dans un pays qui propose un carrefour, je dirais, de cultures, un pays qui possède deux langues, deux cultures, mais aussi des disparités économiques et artistiques. Et puis, c'est donc un pays qui doit faire avec ses différentes cultures et en même temps qui doit, je dirais, prendre en charge une culture commune pour ce qui nous intéresse, celle de la danse. Il y a trois gouvernements en Belgique, trois gouvernements communautaires, francophones, flamands, germanophones. Il y a trois gouvernements régionaux, la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. Et donc on s'aperçoit que la danse va s'inscrire dans ces trois territoires belges, territoires culturels belges, de manière différente. Beaucoup d'auteurs s'accordent à dire qu'en Wallonie, par exemple, les chorégraphes ont dû faire face à des moyens plus modestes que dans la partie flamande ou à Bruxelles, ce qui explique qu'ils ont développé un art qui était plus autonome, quelque part, que les artistes de Flandre, par exemple, qui ont été rapidement soutenus par des coproducteurs étrangers, mais aussi par leur communauté. Donc on voit que la créativité va vraiment être en lien avec, je dirais, l'espace régional dans lequel elle prend part. L'autre réalité peut-être importante de la naissance de cette danse contemporaine belge, un incontournable, ça va être un chorégraphe néoclassique qui va s'installer en 1960 à Bruxelles, qui est Maurice Béjart, qui suite à la création de sa lecture du Sacre du Printemps en 59 va être invité à s'installer avec sa compagnie, le ballet du XXe siècle, au Théâtre de la Monnaie en 1960, et 10 ans plus tard, il va, sous l'impulsion aussi bruxelloise, fonder une école, Moudra, qui existera de 1970 à 1988. Et dans cette école, Maurice Béjart souhaite, concrétiser peut-être sa philosophie personnelle du ballet moderne. Et c'est au sein de cette école qu'il va former un grand nombre de danseurs, chorégraphes des années 70 et 80, ou qui émergent dans les années 70 et 80. École et compagnie sont dans les mêmes locaux. Et dans cette école, on va avoir de nombreuses disciplines qui vont être enseignées au-delà de la danse classique ou moderne, telles que le chant, le rythme, le solfège, la scénographie, les arts visuels, le théâtre. Et donc, on sent bien que ce sont des jeunes danseurs qui vont être formés finalement à un éclectisme, je dirais, d'apprentissage, qui va naturellement faire que certains d'entre eux, au sortir de cette école, vont peut-être développer leur propre langage contemporain, plutôt que de continuer dans cette voie offerte de danse néoclassique par Maurice Béjart. De nombreux danseurs et danseuses belges d'ailleurs vont s'y former. Je peux citer quelques noms, peut-être Nicole Mossou, Michel-Anne Demey, Michel Noiret, Anne-Thérèse Adkersmaeker, Fumiyo Ikeda, qui vont être effectivement des personnalités importantes de cette danse contemporaine qui émerge dans les années 80. L'autre chose importante aussi dans cette naissance de la danse contemporaine belge, ça va être dans les années 70-80, au-delà de l'importance de cette école à Bruxelles, l'idée que les danseurs européens ont un désir, c'est de partir avec une bourse de fin d'études aux États-Unis. Et ça, c'est commun à la France, cette idée que on finalise finalement son parcours d'étudiant par une bourse américaine qui devient une forme de passage obligé pour certains danseurs français et belges. Et notamment, par exemple, on peut penser à Teresa de Kersmaeker, qui a été formée à Mudra et qui ensuite va finaliser, je dirais, peut-être sa formation à la Tisch School of Art à New York par voilà, une formation où elle va découvrir notamment la danse américaine et les influences minimalistes de cette danse américaine. Et puis enfin, peut-être dire aussi que dans cette culture belge, il y a une vraie porosité entre les disciplines, peut-être beaucoup plus forte que dans la culture française. Vous savez que les Français aiment beaucoup classifier les choses, et notamment dans le domaine de l'art. Là où l'institution artistique belge, il me semble, propose un découpage des disciplines qui est moins fort qu'en France, ce qui favorise, je dirais, la possibilité pour les artistes d'être plus curieux des disciplines, des transfusions entre les disciplines, d'être moins enfermés aussi dans des dénominations. Ce qui va permettre, ce qui va favoriser la transdisciplinarité, les projets transversaux et puis les parcours artistiques singuliers qui peuvent mêler effectivement différents médiums. Alors par rapport à cela, je vais peut-être évoquer quelques personnalités de cette première génération. Peut-être commencer par une chorégraphe qui est programmée dans Danse Fabrique, Teresa de Kersmaeker, qui fonde sa compagnie en 1983. Qui a découvert la musique minimaliste de Steve Reich, notamment lorsqu'elle croise des musiciens à New York, et puis qu'elle va continuer de découvrir avec un de ses collaborateurs, Thierry Demey. Et c'est vraiment ce rapport, ce croisement entre la partition musicale minimaliste et la danse qui va être le point de départ de sa signature, travaillant véritablement à des répétitions, des déclinaisons, des accumulations de motifs gestuels, d'un répertoire toujours de gestes restreints pour créer des superpositions, je dirais, entre la partition chorégraphique et la partition musicale. Alors très souvent, son style se définit à partir d'un espace contraint par la géométrie, et puis une oscillation entre une simplicité dans les principes de mouvement. Certaines pièces sont que sur la marche, par exemple. Là, je vais vous présenter un extrait de Come Out, qui est un duo assis sur des chaises. Simplicité, je dirais, du vocabulaire choisi pour l'œuvre, et en même temps, une complexité dans la composition de ces gestes entre eux. C'est-à-dire, véritablement, travailler sur la richesse de l'organisation chorégraphique dans un rapport soutenu à la partition musicale. On le retrouve dès sa première pièce, 82, phase, quatre pièces, un solo et trois duos autour de la musique de Steve Reich, où on retrouve les principes, je dirais, fondateurs de son travail. Je vous montre peut-être un extrait de Come Out. Alors là, j'ai choisi un extrait de la version vidéo danse de ce projet, plutôt que la version scénique. Alors vous avez remarqué, vous avez identifié très rapidement la gestuelle. Par contre, après, tout se joue dans comment cette gestuelle est organisée dans la superposition avec cette partition musicale. C'est ainsi que la signature Kersmaeker naît, dans cette juxtaposition, dans ce croisement entre partition chorégraphique et partition musicale. C'est un de ces possibles naissants de cette première génération de la danse contemporaine belge. Un autre chorégraphe qui apparaît un peu près dans les mêmes années, puisque la compagnie Rosa s'est créée en 83. En 84, Alain Platel crée les ballets C de la B, pour C pour contemporain, B pour Belgique, les ballets contemporains de la Belgique. C'est un orthopédagogue au point de départ, il est autodidacte en termes de formation pour la mise en scène. Et il vient d'une formation artistique. Enfant, il était dans une école de mime. Donc, a priori, un lien au corps, mais pas forcément un lien direct avec la danse. Et puis, il va commencer à se former en danse. Et c'est vraiment au début des années 80 qu'il commence à travailler ses propres chorégraphies, où il mêle tout de suite différents arts, la danse, le théâtre, la musique, le cirque. Il mêle aussi professionnels et amateurs, comme finalement pour rendre encore plus vivant et encore plus en prise à la réalité les pièces qu'il conçoit, les productions qu'il conçoit, un peu dans une vision, je dirais peut-être d'art total, de metteur en scène utilisant de multiples matériaux. C'est le cas par exemple dans La Tristezza Complice de 1995. Alors, je vous en montre d'abord un extrait et ensuite on en parle. C'est un extrait d'une émission de télévision.
Au commencement, il y a la beauté déchirante d'une mélodie d'Henri Purcell. Mais les salons baroques sont devenus halls de gare et les violons ont fait place à l'accordéon. Les personnages d'Alain Platel racontent, sans rien dire, une histoire de gens ordinaires et que seule la vie quotidienne fait se croiser. Ce que le spectacle ajoute à cette vision d'un univers un peu trop gris, c'est l'incongru, l'inattendu, bref, la poésie. Est-ce un ballet? Pas vraiment. Un opéra? Pas davantage. Alain Platel, ce pédagogue devenu par hasard homme de théâtre, se définit comme un collectionneur de choses vues.
Quand on rencontre quelqu'un, à première vue, on est très ordinaire. Et donc c'est par la rencontre avec quelqu'un qu'on découvre qu'il... où elle porte beaucoup de poésie, beaucoup de malheur, beaucoup de joie, beaucoup de tout, quoi.
Avec son petit monde grotesque, Alain Platel raconte à sa manière la même histoire triste que les petites gens de Jérôme Deschamps. Son histoire à lui ne fait pas non plus pleurer, mais elle ne fait pas rire. Elle laisse tout simplement libre cours à l'émotion.
Je l'arrête sur une image amusante. Une citation peut-être d'Alain Platel. Cette danse s'inscrit dans le monde et le monde appartient à tous. Et là, vous voyez qu'on est dans une toute autre approche, finalement, à la fois de ce que peut proposer, je dirais, une œuvre du spectacle vivant mise en scène, et puis une autre approche, finalement, des matériaux que l'on peut y déposer. Ça rejoint aussi la formation des ballets C de la B, puisque dès le départ, lorsqu'il fonde à Gand en 84 les ballets C de la B, il le pense comme un collectif artistique centré sur la danse contemporaine, mais qui aborde aussi des approches scéniques, plastiques, d'horizons variés. Et il va être accompagné de différents jeunes chorégraphes comme Con Augustinen, par exemple, sur la première génération, qui vont faire partie de ce qu'on va appeler la nouvelle vague belge, c'est-à-dire de jeunes chorégraphes qui cherchent effectivement des manières renouvelées, finalement, d'intégrer la danse à la pratique scénique. Ensuite, on va avoir d'autres artistes qui vont intégrer ces ballets C de la B. On peut penser à Christine De Smet, à Sidi Larbi-Cherkaoui, dont on reparlera tout à l'heure, à Hans van den Broek, c'est-à-dire à chaque fois des jeunes chorégraphes qui essayent de trouver leur façon, je dirais, de poser un discours sur le monde. Très souvent, cette façon collective va être aussi d'utiliser une vision, finalement, peut-être d'art total sur la mise en scène. Au fil du temps, ça devient même, ces ballets C de la B, une forme de structure plateforme qui s'internationalise. Je crois qu'au Quartz, il y avait eu une collaboration avec des artistes palestiniens qui avaient été accueillis il y a quelques années. Mathieu me fait oui. À partir d'un projet, alors là, je me souviens plus de tête, mais c'était peut-être un projet d'Augustinen. Et voilà, donc cette idée que finalement cette compagnie, c'est une plateforme et aussi un territoire de rencontre et de carrefour de culture. Donc voilà une toute autre manière, vous le percevez, hein, de rentrer dans cette danse contemporaine dans les années 80 en Belgique. À la même période, c'est par le biais des arts visuels qu'un autre metteur en scène chorégraphe va s'inscrire dans ce paysage. C'est Yann Fabre qui va fonder sa compagnie en 86, la compagnie Troubléen. Yann Fabre nous dit « L'art tel que je le perçois est un moyen de défense de la vulnérabilité de notre état d'humain, de défense de la vulnérabilité de la beauté. » J'aime à coller cette citation avec quelques images choisies pour questionner ces notions de vulnérabilité et de beauté, puisque c'est depuis un parcours, je dirais plutôt de plasticien, de performeur, de personne du théâtre, puisque c'est quelqu'un qui a fait ses études aux Beaux-Arts d'Anvers, qui a écrit des textes pour le théâtre, qui dans les années 70 a plutôt été dans des productions de performance impliquant son corps, qu'il va rentrer, je dirais, dans la question de la mise en scène. Une mise en scène qui va être qualifiée parfois de danse, de théâtre, d'opéra, qui est effectivement une mise en scène peut-être plutôt de metteur en scène que de chorégraphe, pour essayer de définir les genres, et qui cherche des radicalités dans les choix esthétiques, en rupture, je dirais, avec les valeurs peut-être académiques du théâtre et de la danse. C'est un travail sur les limites, sur les frontières, frontières entre les disciplines, frontières des cadres, limites des cadres, limites des corps aussi. C'est une œuvre tourmentée, souvent décrite comme entre discipline et chaos, et ça figure bien, je crois, le travail, entre discipline et chaos pour exposer finalement une vision du monde qui est faite à la fois de beauté et de violence, et qui s'amuse à déjouer les références culturelles. Il appelle d'ailleurs longtemps ses danseurs des guerriers de la beauté, là encore une espèce de formulation paradoxale dans sa mise en œuvre. Et puis une partie de son travail est vraiment tournée vers des mises en scène imposantes. C'est le cas là par exemple du Pouvoir des folies théâtrales pour la Biennale de Venise en 84, qui est une pièce de 4h30. C'est le cas aussi de Je suis sang, qui avait fait beaucoup parler lors des festivals d'Avignon, qui est une production théâtrale pour 22 acteurs, danseurs et musiciens, qui avait été faite pour la cour d'honneur. Et si je reprends les termes de Yann Fabre, cette pièce a été faite pour la cour d'honneur du Palais des Papes, au mur ensanglanté par tous les hérétiques qui ont été exécutés. Donc toujours un rapport à aussi ces questions de références culturelles judéo-chrétiennes, notamment. Et puis, c'est le cas aussi dans Requiem pour une métamorphose, qui est une scénographie avec énormément de fleurs coupées. Donc toujours quelque chose qui est dans l'abondance, peut-être, et qui l'articule avec des pièces, des productions peut-être plus intimistes, des formes de solo faits pour des interprètes singulier ou singulière. Là, je me rapproche peut-être d'une des artistes qui est en résidence ici depuis quelques années. Ça a été le cas, par exemple, avec Quando l'uomo principale est una donna, d'un solo réalisé pour Lisbeth Kruisvers dans les années 2000. C'est le cas aussi d'un solo qui a été dansé par Erna Omarsdottir, qui a été aussi artiste associée au Quartz il y a quelques années, il me semble. Je me tourne vers... Oui. Pas associée, mais régulièrement programmée, en tout cas, qui est Erna Omarsdottir. Donc voilà, des formes plus intimistes, peut-être, qui sont moins dans des grandes scénographies, mais qui toujours utilisent des matériaux, et des matériaux controversés dans notre culture. L'huile d'olive, le beurre, voilà, des matériaux qui peuvent, en tout cas, susciter du rejet ou de l'interrogation dans leur utilisation scénique. Donc un travail qui se veut très plastique et dans le questionnement des limites du corps. Dans cette idée du questionnement dans les limites du corps, ou du questionnement de qu'est-ce qu'on fabrique sur un plateau de scène, je souhaite aussi évoquer dans cette première génération Wim van de Kebus, qui vient d'études en psychologie, qui s'est orienté plus tard dans une carrière artistique, dans des cours de théâtre et de danse, qui voit la scène comme un endroit de l'urgence, un endroit où on met en jeu finalement l'urgence de la vie. Peut-être je commence par une citation. L'intensité de ces moments où on n'a pas le choix, où les décisions sont prises à notre place, comme le coup de foudre ou la seconde juste avant l'accident qui était inévitable, ils surgissent soudain comme ça. Et pour moi, ils sont importants à cause de leur caractère extrême, bien plus que du sens qu'on peut leur donner. La décision d'utiliser cela comme matériau de base pour un spectacle de théâtre est pour le moins un défi paradoxal, car un spectacle de théâtre est considéré comme susceptible de se répéter. Et donc là, on est véritablement dans cette idée de mettre en scène une énergie brutale ou instinctive, en tout cas une danse viscérale qui joue avec finalement la prise de risque, le possible incident, le possible fait que ça ne se passe pas comme de manière prévue. Et donc souvent dans les pièces de Wim van de Kebus, il y a la nécessité d'injecter cette urgence, injecter une urgence pour les danseurs. Des danseurs qui sont aussi très souvent des artistes qui mêlent un parcours de danseur, de circassien, d'acteur, de musicien. C'est-à-dire qu'on est véritablement aussi sur des projets avec des collaborateurs qui peuvent être issus de différentes disciplines dans un lien très fort à la musique. Et là, je vous présente un extrait d'une pièce de 87. Là, c'est sur une reprise de 2013 qui s'appelle « What the Body Does Not Remember ». Avec deux séquences que je vais vous présenter. D'abord une séquence de questions-réponses musique-danse. Très souvent des éléments qui permettent de mettre une situation d'urgence. Là, on vient de voir quelques plumes qu'il faut souffler pour qu'elles ne tombent pas. Et puis ensuite, on va voir une séquence avec des briques, des formes de briques, avec une chorégraphie de l'urgence. Qui suppose des lancers, des réceptions. Je l'arrête là, mais vous avez compris que la motivation de la danse et de la chorégraphie est soumise finalement à une espèce de pression qui est la pression de répondre à l'urgence de ne pas se blesser, par exemple. Hein. L'idée, c'est de développer une danse viscérale, finalement. Wim van de Kebus dit « Une danse viscérale hantée par la chute et le jaillissement, un univers mental sous pression ». De l'irrationnel. Et là, on retrouve son point de départ avec des études en psychologie, c'est-à-dire comment est-ce que on met au plateau une situation d'urgence telle qu'on pourrait la connaître finalement dans la vie de tous les jours. Dernier exemple, parce qu'il faut bien que je m'arrête sur cette première génération rapidement, une compagnie qui elle aussi est une maison d'artistes au départ, qui a été fondée en 86. C'est la Need Company avec Jan Lowers et Grace Ellen Barquet, qui est une vision, une maison d'artistes qui a une vision aussi pluridisciplinaire de l'art. Avec, je prends le cas de Jan Lowers parce qu'il a pu notamment être vu en France avec cette trilogie, La chambre d'Isabella, Le bazar du homard et La maison des cerfs, une trilogie sur la condition humaine qui fait, je pense, œuvre vraiment de son travail pluridisciplinaire, qui est vraiment la signature, je dirais, de la Need Company, un travail pluridisciplinaire qui cherche sans cesse à mettre en scène, je dirais, des discours sur l'humanité à partir de matériaux très divers, dont le corps d'ensemble et pas que. Danse, jeu d'acteur, musique, chant et travail plastique très fort. Et là encore, vous le sentez certainement, on est dans l'antre. Entre le théâtre, entre le concert, entre la pièce de danse, entre la mise en scène, entre le travail plastique, entre des œuvres d'art présentées sur scène. Être finalement un carrefour artistique qui reste en priorité de l'art vivant. Et puis peut-être pour finir sur ces années 80, c'est aussi le moment tout de suite où les danseurs belges imaginent leur pratique en lien avec une pensée de cette pratique, avec une réflexion sur cette pratique. Et peut-être que l'exemple le plus important, c'est la fondation par la chorégraphe et danseuse Patricia Kuipers en 84 des éditions Contredanse, que vous connaissez peut-être pour certains. Ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous invite à aller à la librairie Book on the Move au rez-de-chaussée. Ils ont il y a quelques ouvrages de présenter. À la fois, donc c'est une édition papier, mais c'est aussi les éditions Contredanse, un endroit où on peut avoir des conférences, des formes d'exposition, de discussion autour de la danse, de penser la danse, de réfléchir sur la danse et surtout d'apprendre des autres cultures dansées. Je donne un exemple, les éditions Contredanse, peut-être dans les années 80-90, ont été les premières en langue française à éditer des choses sur les postmodernes américains, par exemple. Donc vraiment un endroit aussi important de soutien, je dirais, évidemment de la création chorégraphique, mais aussi de permettre de relier le travail de création avec un travail de pensée, je dirais, sur l'art chorégraphique qui a été véritablement important et qui continue encore aujourd'hui vraiment de dynamiser, je dirais, les réflexions autour de ce sujet. Et puis avec les années 90-2000, arrive, je dirais, deux choses. D'abord, toujours une importance forte donnée à la transmission en Belgique et puis une importance forte donnée à la diffusion avec le déploiement d'une vision internationale de cette danse belge et puis aussi de nouveaux chorégraphes qui apparaissent, notamment parce que certains interprètes vont devenir eux-mêmes chorégraphes. Alors peut-être quelques mots sur cette génération des années 90-2000. D'abord, l'importance d'une école qui est fondée en 95 par Anne-Theresa de Kersmaeker, PARTS, PARTS pour Performing Arts Research and Training Studios, qui est l'école... peut-être la plus importante, une des écoles les plus importantes en Europe aujourd'hui, qui est une école de un cycle de formation sur 4 ans à dimension internationale, avec une formation très élargie, qui propose finalement une formation à l'étudiant autant comme interprète que comme potentiel chorégraphe, où on étudie toutes sortes de danses, mais aussi des études de corps, des études musicales, une formation théorique intense. Finalement, on pourrait dire que PARTS a pris le relais de Moudra, quelque part, dans cette idée que la Belgique est un terrain de formation très très fort, qui est une école qui reste une école à la de formation à la croisée des disciplines. L'idée, je pense, d'Anne de Theresa de Kersmaeker, c'est pas de former des danseurs à intégrer le répertoire de Rosas, même si ce répertoire fait partie de la formation, mais c'est bien d'avoir l'idée que chacun des étudiants puisse trouver sa propre voie, je dirais, dans l'art qu'il pratique. C'est bien pour cela qu'un certain nombre des étudiants vont sortir chorégraphes des différentes générations, quelque part, de Moudra. Donc, importance de cette formation de l'école de Partz au milieu des années 90, qui va former énormément de danseurs et de chorégraphes. Importance aussi du développement des espaces de diffusion et de création, je dirais, à rayonnement européen et international à ce moment-là de l'histoire de la danse belge. Je vais peut-être évoquer trois lieux. Charleroi Danse, centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui va vraiment se développer dans ces années 90 vers la création contemporaine. C'est l'ancien Ballet Royal de Wallonie qui se transforme en Charleroi Danse et qui devient une référence forte au niveau européen. On peut penser aussi au Kite Theater qui a commencé comme étant un festival nomade au milieu des années, fin des années 70, et qui devient vraiment un lieu à part entière avec les années 90. Et puis on peut penser à des lieux de diffusion comme les Halles de Schaerbeek, aussi à Bruxelles, qui sont vraiment des lieux qui à la fois produisent, soutiennent, créent soutiennent les créations des chorégraphes belges, mais aussi ont une dimension, une vision internationale dans ce qu'elles peuvent diffuser, coproduire aussi sur le territoire, ce qui donne une énorme dynamique, je dirais notamment à Bruxelles. Une énorme dynamique chorégraphique. Et puis c'est un moment aussi, ces années 90, où on voit s'établir sur le territoire belge de nombreux chorégraphes internationaux. Alors je donne trois exemples, mais ce n'est que trois exemples parmi tant d'autres. On peut penser à la chorégraphe américaine Meg Stuart, qui va s'installer à Bruxelles en 94. Très importante parce que c'est un moment aussi où elle est dans des projets d'improvisation, où elle invite énormément de chorégraphes dans des projets performatifs et d'improvisation qui vont faire un peu le tour de l'Europe. Je pense au projet Crash Landing, par exemple. Donc, elle va favoriser aussi des échanges, des croisements, la dynamique, finalement, entre les artistes dans une vision interdisciplinaire. On peut penser aux Suisses aussi, Thomas Hurt, qui s'installe en 97 à Bruxelles. Et enfin, je peux penser, il n'est pas installé complètement à Bruxelles, mais il y travaille beaucoup, à David Zambrano, qui va depuis de nombreuses années circuler entre Amsterdam et Bruxelles, et qui notamment est le fondateur, je dirais, ou le créateur de formes de techniques d'improvisation, le flying flow et le passing through notamment, qui sont des formes improvisées qui sont énormément traversées par beaucoup de danseurs internationaux et qui vont être des formes aussi très fédératrices, je dirais, de rencontres avec d'autres artistes. Donc ce sont aussi des artistes internationaux qui s'installent en Belgique, notamment à Bruxelles, et qui vont être aussi des artistes qui favorisent par leurs projets la rencontre et les circulations, interdisciplinaires. Donc là, il y a vraiment un engouement, je dirais, pour Bruxelles, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, j'étais intéressée un peu dans la programmation Danse Fabrique. Je pense à Angela Rabaclio et puis Michael Florence, Suisses et Français, qui ont installé leur compagnie à Bruxelles et que vous avez dans la programmation de Danse Fabrique cette année. Donc voilà, on a toujours cet attrait européen pour aller s'installer à Bruxelles, notamment je pense à l'imaginaire français dans cette idée que tout a l'air plus possible dans les projets interdisciplinaires à Bruxelles que cela n'est possible peut-être, je mets beaucoup de guillemets, dans le paysage français qui paraît peut-être plus cloisonné dans les disciplines. En tout cas, c'est voilà une idée que l'on peut avoir. Et puis, les années 2000 sont favorables à cette idée qu'on peut passer d'interprète à chorégraphe. Interprète à chorégraphe avec deux espaces propices à cela, Partz, qui favorise, lorsqu'on a été formé à Partz, l'idée qu'on peut créer sa propre signature, même si on a été interprète pour d'autres, et puis les ballets C de la B d'Alain Platel, qui vont formuler là aussi une nouvelle génération de chorégraphes, peut-être quelques exemples. Alors d'abord des exemples qui sont peut-être plus en lien avec cette idée d'art total ou d'œuvre d'art total. Sidi Larbi Cherkaoui qui fait ses premières créations au sein des ballets de Sedlabé et puis ensuite qui va fonder sa propre compagnie, compagnie Eastman. Ce qui m'intéresse, c'est que son travail s'attache justement aux notions de multiculturalité, à la physicalité dans ses limites, au corps cathartique, et puis au croisement des disciplines entre chant, théâtre, musique et danse, dans, je dirais, souvent des huis clos, qui parlent finalement de la croisée des cultures, une forme peut-être œcuménique de la vision du monde. Alors d'Enfoy notamment, hein, qui est sur une vision peut-être apocalyptique du monde, dans un huis clos où on enchaîne les catastrophes. Voilà, j'ai choisi un moment plutôt dansé. Vous sentez que déjà il y a à la fois cette gestuelle très fluide, très physique, très en lien avec la danse contemporaine, et puis cette musique qui vient de compositions du XIVe siècle. Et qui peut, comme ça, ouvrir à une culture plurielle, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc une partie de cette création chorégraphique qui est en lien avec cette idée de vision d'art total, de mise en scène des différentes pratiques de l'art vivant au sein de, je dirais, d'un huis clos, ou en tout cas d'une mise en scène qui raconterait quelque chose de notre humanité. C'est le cas aussi dans le collectif Pepintom, qui a été fondé en 2000 par Gabriela Carrizo et Franck Chartier, notamment dans ce triptyque le jardin, le salon, le sous-sol, là encore toujours dans des très grandes scénographies, très marquées, hyper réalistes, qui essaye toujours de créer des univers. Alors là, on est dans l'univers de la famille, dans ce triptyque, dans cette trilogie. Et qui mêle une théâtralité avec un mouvement dansé et avec une mise en situation scénographique qui peut aussi faire appel à la voix, au chant et aux références culturelles. Alors c'est leur propre fille qui est bercée. Et là vous imaginez qu'elle est. C'est une captation qui est plus récente et donc elle a grandi. Au début de la création, elle était plus bébé que là. Voilà, jouer aussi avec. Des choses simples, mais qui évidemment, quand on combine l'action avec cette musique, avec l'univers qui est autour, ça crée pour le spectateur une émotion singulière. Je suis obligée de l'arrêter, le temps passe. Dans ces différents artistes qui voilà, sont héritiers de cette culture entre belges, On a aussi, alors tous ont été interprètes dans différentes compagnies. Erna Omasdottir, dont on parlait tout à l'heure, qui a été interprète de Yann Fabre, interprète des Balaissés de l'Abbé, de Sidi Larbi-Cherkaoui, qui va développer son propre travail à partir des années 2000 et qui avait été programmée au Quartz, je m'en souviens, pour un certain nombre de ses projets. Des projets notamment très en lien avec la musique, avec le compositeur Johan Johansson, et avec un grand travail entre musique, corps et voix. Comment la voix est une extension du corps, le corps comme instrument de la voix, dans des recherches qui poussent, je dirais, le corps et la présence scénique à des extrêmes pour être en lien dans ce rapport musique-voix. Parlait en introduction de corps sans compromis. On en a vu différentes possibilités, traductions. Là, c'en est encore certainement une autre. Voilà des interprètes qui cherchent par la suite à trouver leur propre désir et leur propre signature dans le travail. Je disais qu'Erna Omasdottir avait été formée à Partz, chez Yann Fabre, dans les Balaissés de l'Abbé, chez Sidi Larbi-Cherkaoui. C'est le cas aussi de l'artiste associé du Quartz qui propose une programmation dans ce festival de danse fabrique, Lisbeth Gruvert, qui elle aussi, après une formation classique et une formation de danse à Anvers, va être aussi diplômée de Partz, interprète pour de nombreuses compagnies belges, notamment chez Wim van de Kebus, Yann Fabre, Sidi Larbi-Cherkaoui, et qui va commencer son travail chorégraphique personnel. Là encore, en lien fort avec la musique, avec le compositeur Martin von Kauerberg. 2006, fondation de leur compagnie. Là, dans un travail de lien rythmique entre un geste ciselé et un travail musical. Ici, dans une pièce de 2012, It's going to get worse and worse and worse, my friend. Un travail sur les gestes du pouvoir, sur les gestes du dictateur, sur les gestes des grands orateurs. En lien avec un travail sonore qui utilise des fragments du discours d'un télé-évangéliste ultra-conservateur connu aux États-Unis qui s'appelle Jimmy Swaggart. Ici, contrairement aux extraits vus précédemment, pas de grande mise en scène théâtrale qui mette le danseur dans un univers. C'est le mouvement lui-même qui crée l'univers. Mais je l'arrête là. Donc voilà, un certain nombre de danseurs, de danseuses formées en Belgique ou ayant été interprètes en Belgique qui deviennent chorégraphes, et puis certains aussi formés en Belgique qui vont directement installer leur travail chorégraphique à Bruxelles. Alors je prends qu'un exemple, c'est le cas de Mette Unverksen, par exemple, qui est une chorégraphe qui n'est pas de Belgique au point de départ, qui est danoise et qui va, au sortir de sa formation à Parts, installer sa compagnie et travailler sur ses formes chorégraphiques depuis, je dirais, cet endroit peut-être très dynamisant pour la danse qu'est Bruxelles. Donc aussi des chorégraphes et des artistes qui s'installent dans ces années-là, dans les années 2000, pour présenter leur travail. Et puis on s'aperçoit depuis le milieu des années 2010 qu'on a une nouvelle génération qui arrive encore. Vous voyez bien, en 40 ans, on va dire qu'on peut estimer qu'il y aurait trois générations. À partir des années 2010, on s'aperçoit que voilà, on a encore une nouvelle génération qui arrive, et on pourrait dire qu'on est dans notre troisième partie, hein, troisième partie 3, Parts, un creuset international insatiable, c'est-à-dire que 2015, ce sont les 20 ans de Parts déjà, de cette école, et en 20 ans, on a un livre qui sort avec 50 portraits de danseurs, danseuses, qui ont été formés dans cette école et qui ont fait partie des différentes générations qui sont apparues à partir des années 90. Et on voit émerger, je dirais, à partir des années 2010, une nouvelle génération de chorégraphes formés à Parts ou formés en Belgique, qui vont renouveler encore ou qui vont développer autrement, je dirais, leur travail chorégraphique, qui ne sont pas forcément belges d'origine, mais qui vont intégrer cette formation belge à leur parcours. J'ai choisi deux exemples. L'exemple de Noé Soulier, parce que c'est un danseur français qui a fait ses études au Conservatoire de Paris, à l'École nationale du ballet du Canada, et qui va intégrer Parts sur la génération 8, 2006-2010, et en parallèle faire un master et un doctorat de philosophie à Paris 8, et qui est tout fraîchement nommé directeur du CNDC à Angers. Donc ça a aussi un lien direct avec la formation en danse contemporaine en France. Ce qui m'intéresse avec Noé Soulier, c'est de voir comment est-ce que un jeune chorégraphe qui arrive, je dirais, dans le paysage chorégraphique dans les années 2010, s'empare de cette formation à Parts pour inventer peut-être d'autres manières de percevoir la chorégraphie. Ce qui l'intéresse, c'est la recherche sur les modes d'appréhension du mouvement, notamment qu'il y ait un décalage entre le mouvement et le langage, ou qu'il y ait une exploration d'un vocabulaire de mouvement, mais qu'on prenne pas dans le sens initial. Je vous donne un exemple. Ses premières pièces étaient sur explorer le vocabulaire de la danse classique, mais toujours en perturbant la perception. C'est-à-dire que, par exemple, ne plus s'attacher aux grandes figures que sont les tours ou les grands sauts, mais s'attacher aux pas de préparation pour les faire. Alors que d'habitude, ces pas de préparation, je dirais qu'on les regarde moins que les grandes figures. Donc toujours un intérêt sur, effectivement, l'élaboration de sens dans le mouvement, dans le langage gestuel. Par exemple, dans Removing, dont je vous montre un extrait là de 2015, son idée de départ, c'était d'explorer les qualités du mouvement, qui sont des mouvements que l'on fait dans un but pratique. Il avait choisi des verbes d'action comme frapper, éviter, lancer, atteindre, en se disant que c'était un vocabulaire que tout à chacun pouvait connaître, pouvait utiliser dans sa vie quotidienne, et en partant du principe que souvent on l'utilise dans le but, et du coup on est plus focalisé sur son but que sur le mouvement lui-même. Et là, c'était d'interroger le mouvement lui-même, de voir comment est-ce que finalement, peut-être que si on l'exécute pour lui-même, cette expérience du mouvement devient plus forte, plus lisible, plus intéressante, finalement, ou permet au spectateur de découvrir, je dirais, la nature profonde de mouvements simples. Alors ensuite, évidemment, tout cela inscrit dans une composition chorégraphique. Mais en tout cas, la question de l'écart entre le mouvement motivé par un but et le mouvement pris pour lui-même, en mettant le but comme une résolution secondaire. Donc vraiment un travail sur le sens du mouvement. Autre exemple de cette génération 8, parce que le temps file, autre exemple de cette génération 8, un Américain, Daniel Linehan, qui travaille beaucoup en Europe et qui, dans ses premières pièces en tout cas, tout de suite a développé un travail autour du lien entre voix et corps. Les relations entre la voix et le corps et d'essayer de travailler à des relations qui seraient ambivalentes ou contradictoires. Pour lier le corps et la voix, la danse et la musique, le geste et le langage, c'est-à-dire à chaque fois essayer de mettre en simultané, dans l'exemple que je vais vous montrer en tout cas, un travail de voix qui ne serait pas approprié au travail de corps qui est mis en œuvre. Travailler à des frictions entre ce qui est fait par le langage et ce qui est nommé dans le corps. C'est ce qui est un des enjeux de Zombie Aporia de 2011, dont je vais vous montrer deux séquences ou deux extraits de séquences.
The music is the background for the dance.
The music is the background for the dance.
The music is the background for the dance. Is the background for the dance.
The music 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 is the background for the dance.
C'est assez cacophonique. Et vous remarquez qu'il y a certainement une règle du jeu. Arrête là. Je vous livre juste une citation de Daniel Linehan. Il dit « Dans chaque séquence, nous faisons appel à plusieurs types de matériaux et les faisons entrer en collision. Un rythme musical se heurte à un rythme de danse contraire. La manipulation physique déforme la qualité de la voix. Les mots écrits fusionnent avec les mots énoncés. » Donc à chaque fois, faire confronter et trouver des formes de collision. Donc vous l'avez compris, hein, la danse contemporaine en Belgique, c'est toujours des collisions. Finalement, selon les formes proposées et les chemins frayés, je dirais, par les artistes, c'est une créativité qui semble indomptée très souvent, ou indomptable, même dans ses formes les plus ciselées, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'essayer de trouver une brèche qui serait une brèche de signature originale. Alors une brèche qui aujourd'hui aussi s'active encore et toujours entre les arts, trouver cette brèche entre les arts et je pense que dans la programmation des jeunes artistes belges émergents, cette brèche, vous pourrez la voir peut-être dans le festival avec le travail de Louis Van Averberg, qui va être dans cette brèche entre l'installation plastique, musicale, un objet spectaculaire qui n'est en même temps peut-être pas tant spectaculaire que ça, en tout cas d'être dans cette entre, je dirais, peut-être entre la performance, entre le one-man show, entre l'installation, le DJing, le théâtre d'objets. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut produire quelque chose entre les arts ou entre les formats privilégiés des arts. Et puis aussi un travail autour qui s'inscrit aussi entre les cultures. Comment se situer, par exemple, entre la culture populaire et la culture savante? Et là, je pense peut-être au projet qui sera présenté de Mercedes Dassi, de se poser la question de la torsion des images, de la torsion des signifiés, des signifiants, de ce que l'on connaît comme peut-être des formes obligées, la forme qui serait la forme obligée du clip télévisuel, la forme obligée du spectacle de danse contemporaine, et comment est-ce que lorsqu'on commence à mêler les cultures entre elles, ça peut là aussi tordre les signifiants et les signifiés et finalement nous mettre dans des zones inconfortables de lecture parce que elles font se télescoper finalement des références culturelles qu'on aurait peut-être envie parfois en tant que spectateur de clairement isoler dans des endroits qu'on assignerait, qui seraient les endroits réservés de telle ou telle chose. Donc voilà, une culture en tout cas de l'entre, entre les éléments de culture savante ou populaire, et puis entre les arts, ce qui continue évidemment d'être fortement développé par ces artistes. 13h31. Ouais, vous avez senti que j'étais pas très à l'aise sur le temps par moment, mais j'ai réussi à le tenir pour essayer de traverser en tout cas une pluralité de ces 40 ans de création et puis peut-être de vous donner envie d'aller creuser un peu plus sur tel ou tel chorégraphe que vous connaissiez peut-être pas. Merci beaucoup. Bonne suite. Et puis, je crois que maintenant, c'est l'heure de la sieste lecture. Donc, n'hésitez pas, peut-être, de manger rapidement et de vous y plonger. Merci beaucoup.